un petit mot sur ces événements UP qui vous accueillent ce soir. Je m'appelle Nicolas Froissart. Je suis vice-président d'une organisation qui s'appelle le Groupe SOS, organisation non lucrative d'économie sociale et solidaire, qui gère plein d'établissements, des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des entreprises d'insertion, des lieux culturels, en essayant de montrer qu'on peut gérer des dispositifs, proposer des services de qualité, y compris aux plus vulnérables et aux plus précaires d'entre nous, puisque malheureusement, la société à deux vitesses se développe beaucoup en France aussi, alors qu'il y a des solutions pour raccrocher ceux qui, justement, à un moment donné, décrochent dans notre société. Et l'innovation sociale en est un bon exemple. C'est un sujet qui est souvent évoqué pendant les Up conférences, pendant les Up cafés, des événements qui, justement, ont pour objectif de proposer des solutions. Asseyez-vous si vous voulez, il y a des places encore, hein, n'hésitez pas. Des solutions et de débattre avec ceux, justement, avec les acteurs du changement, avec ceux qui ont envie d'être positifs, d'être fédérateurs et justement de proposer des solutions à tous les enjeux qu'on peut connaître aujourd'hui sans être dans la confrontation stérile qu'on peut malheureusement voir dans notre société, mais en étant vraiment dans un débat d'idées non partisan, mais vraiment avec cette perspective de proposer des solutions, comme le feront nos intervenants sur un très beau sujet qui est, on le voit bien avec ces dernières semaines ou ces derniers mois, est capital. Comment, là aussi, on réussit à faire en sorte qu'un nombre important de personnes ne décroche pas de notre démocratie, notamment les jeunes, mais pas que. Comment le digital, le numérique, peut apporter quelque chose dans cette perspective. Pour le groupe SOS, donc, et l'organisation pour laquelle je travaille, on travaille nous aussi là-dessus et on voit qu'il y a des plateformes comme Active qui à Paris, à Bordeaux, peut-être un jour à Lyon, développe une plateforme qui permet de mettre en relation des bénévoles avec des associations. Le bénévolat, c'est aussi un moyen de s'engager dans la société. Cher Voisin, qui est une plateforme qui met en relation des voisins pour échanger gratuitement des biens et des services. Peut-être que le lien social, il passe par ça aussi. Se rappeler qu'on a des voisins qui peuvent aussi nous rendre service, à qui on peut rendre service et même le faire gratuitement, ça existe. Et puis, c'est ce mouvement UP aussi qu'on développe avec vous, avec Jérôme et son équipe de bénévoles. Je vais te laisser présenter dans quelques instants cette équipe. Merci Tania pour l'animation et merci à tous pour ce que vous faites, puisque tous les mois et demi, des Up Café sont organisés sur des sujets incroyablement utiles pour le territoire et de façon plus générale pour la société dans laquelle on vit. Si d'ailleurs vous voulez contribuer à ce mouvement UP qui est parti de Paris mais qui maintenant est dans beaucoup de régions françaises, c'est l'objectif. Et si vous voulez donner un coup de main à Jérôme et à tous ceux qui s'impliquent sur ces événements, n'hésitez pas. Ils pourront répondre, je pense, favorablement à votre attente, à vos attentes, à vos envies d'engagement. Et puis sinon, il y a un réseau social aussi qui, au niveau global, s'appelle Up Campus. Campus, pas parce qu'il est réservé aux étudiants, mais parce qu'on considère qu'on peut tous aujourd'hui se former les uns les autres à changer le monde, chacun à son échelle. Donc sur Up Campus, il y a plus de 100 000 personnes qui proposent des idées, des projets, qui peuvent s'entraider justement pour faire des projets utiles pour son territoire, réfléchir à sa façon de consommer, à sa façon d'éduquer ses enfants, etc., etc. On pense qu'on est tous acteurs et qu'on peut tous changer les choses. Et puis comme on pense que le territoire, et après j'en aurai fini pour pas être trop long, c'est une bonne façon justement de changer les choses, on crée des réseaux sociaux territoriaux. Et il y en a un donc qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Up Lyon. Donc si, quand vous allez sur Up Campus, vous mettez dans vos paramètres Lyon et vous verrez en priorité qui sont les gens justement qui partagent cette vision-là sur Lyon, qui ont envie de s'engager, qui sont positifs, qui ont des projets. Donc c'est up-lyon.org, n'hésitez pas. Ça permet, avant et après les événements que vous organisez, de garder le contact. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup. Et merci surtout à Jérôme et à son équipe qu'on peut applaudir parce que, voilà, bénévolement, il vous accueille tous les mois et demi. C'est chouette. Merci.
Bon, juste deux mots parce que Nicolas a tout dit. Nous sommes au départ une équipe de trois personnes à Lyon qui avons lancé donc les Hop Café il y a maintenant juste un an. Le premier, c'était le 30 juin l'année dernière. Donc, on est très content d'avoir tenu le rythme d'un Hop tous les mois et demi. C'est le septième. Donc, Tania et Caroline étaient dans l'équipe de départ. Et maintenant, nous sommes sept avec plein de projets pour la rentrée à partir du mois de septembre. On vous tiendra au courant. Alors, surtout, inscrivez-vous sur Hop Campus Lyon. Nous sommes 1500 déjà et avec l'espoir d'être un jour peut-être 130 000 comme on est aujourd'hui au niveau national. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses sur ce Hop Campus. Et maintenant, je vais laisser la parole à Tania.
Merci, merci d'être venu. Je voulais d'abord remercier l'Université de Lyon. Voilà. Je voulais remercier l'Université de Lyon de nous avoir donné l'opportunité d'organiser ce Hub Café dans le cadre du Pop Science. Quand ils nous ont invités, on a tout de suite accepté. Nous avons tout de suite accepté parce que ce que nous faisons au Mouvement Up et au Up Café Lyon, on a un point en commun avec la démarche scientifique, c'est la transgression des frontières qui est la démarche préalable à la recherche, à l'invention et à l'innovation. Voilà. Et ce soir, nous allons parler de la démocratie et d'Internet, de ce débat. Et nous allons aller au-delà de la démocratie représentative telle que nous la connaissons par l'acte électoral. Nous allons parler de la démocratie coopérative et engagée, où on peut avoir un pouvoir sur l'ordre des choses sans passer par l'acte électoral. Voilà. Et pour nous accompagner dans ces questions, nous accueillons deux entrepreneurs. Nous vous remercions. Donc, Levent Akar, à ma droite, qui est cofondateur de iBoycott.org, et vous nous parlerez du boycott bienveillant. Samuel R, à vos côtés, qui est cofondateur des Bricodeurs, qui vous accompagne les projets numériques et vous accompagne à l'éducation du numérique. Et nous accueillons également ce soir deux chercheurs pour nous aider à comprendre et à nous éclairer dans ce cheminement de la démocratie et d'Internet. Éric Guichard, merci de votre présence. Vous êtes maître de conférence à l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques à Lyon, ici. Et vous êtes également le responsable de l'équipe Réseau, Territoire, Savoir, peut-être pas dans l'ordre, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Et vous travaillez, vous élaborez une philosophie de l'Internet. Et donc, vous nous apporterez un éclairage sur ces questions. Et nous avons également un chercheur, Clément Renaud, qui est ici présent. Vous êtes chercheur et artiste, chercheur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et artiste membre du collectif Disnovation. Votre travail de recherche est axé sur l'impact des technologies nouvelles sur les savoir-faire urbains, les espaces urbains et les nouvelles modalités de fabrication comme dans les Fab Labs. Et vous avez longtemps vécu en Chine, vous connaissez bien les réseaux sociaux chinois. Et d'où votre position aujourd'hui, votre posture d'observateur. Vous avez un œil décalé. Et je vais vous expliquer comment va se dérouler notre débat de ce soir. Il va se dérouler en quatre temps. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Levent Akar, à Samuel R, où vous nous présenterez vos activités en 5-10 minutes chacun. Ensuite, dans un second temps, Éric Guichard, vous prendrez le relais et vous nous apporterez un éclairage sur ces questions de la démocratie et d'Internet pour en comprendre les enjeux et les limites, voire les risques. Et ensuite, juste après, commenceront les échanges, les questions avec les personnes, vous, ici présents. Et ensuite, le débat pendant lequel Clément Renaud, justement, aura un rôle d'observateur. Vous serez l'observateur et vous nous apporterez, à la fin de nos échanges, une synthèse du débat et votre vision du débat. Voilà. Voilà. Nous pouvons commencer.
Ouais, excellent. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis cofondateur de l'association I Boycott. Et notre objectif, donc, j'ai cofondé en fait, l'association avec mon frère qui se trouve derrière. Donc, lui aussi, il est un observateur. Et du coup, nous, l'objectif d'I Boycott, en fait, tout simplement, c'est qu'il ne s'écoule pas une semaine sans qu'on découvre un nouveau scandale économique d'un grand acteur économique, typiquement sur l'écologie, le bien-être animal, etc. Je ne sais pas, je vais poser une petite question. Est-ce que vous êtes déjà... qui a déjà été scandalisé par un acteur économique sur un point précis? Je ne sais pas, après un cash investigation, après un envoyé spécial, quand on retrouve ce sentiment de frustration et d'impuissance. Donc voilà, nous, on a voulu répondre justement à cette problématique-là, cette problématique aussi des lobbies, en fait. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a entre 15 000 et 30 000 lobbyistes, rien qu'à Bruxelles. Il y a plus de lobbyistes que de personnes qui travaillent là-bas. Et donc voilà, donc nous, l'objectif, c'est de créer un contre-pouvoir citoyen contre les multinationales qui sont à l'origine de scandales éthiques avec le boycott bienveillant. Alors ce terme, il est extrêmement important. Pourquoi bienveillant? Parce que nous, l'objectif, c'est pas de nuire, mais c'est de faire évoluer ces marques. Et typiquement, on donne un droit de réponse. Et cette réponse, en fait, de la marque, en fait, elle est reliée à l'ensemble des boycottants qui vont décider tous de manière individuelle s'ils vont maintenir ou pas leur campagne de boycott. Typiquement, H&M a répondu, Starbucks a répondu, Petit Navire a répondu, voilà. Donc, je donnerai après quelques exemples. Et c'est ce qu'on appelle de la démocratie dans l'économie. La seule manière de clôturer une campagne de boycott, c'est de convaincre la majorité des boycottants. C'est la majorité qui décide. La vraie, donc, on parle de vraie démocratie. À côté de cela, en fait, c'est que chaque boycottant, il peut proposer des alternatives à la marque incriminée. Et ça, c'est le volet boycott. Le boycott, c'est acheter pour des raisons éthiques. Typiquement, quand vous achetez bio, local, etc., bah, vous achetez, vous faites du boycott. Actuellement, nous sommes 70 000 personnes inscrites, consommateurs qui agissent, en fait, qui participent à une campagne. Nous existons depuis un peu moins d'un an. On a ouvert des antennes un peu partout en France, notamment aussi à Bruxelles et en Suisse. Et chaque mois, nous faisons une action spécifique contre une entreprise particulière. Typiquement, le mois d'avril, c'était sur l'huile de palme avec la marque Lu. Au mois de mai, c'était Starbucks qui ne paye pas d'impôts depuis 2004 d'impôts sur la société. Et actuellement, là, ça va être la Société Générale qui investit en fait sur le Dakota Access Pipeline. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un pipeline qui va passer sur les terres sacrées Sioux aux États-Unis. Donc voilà, je pense que je vais finir sur une devise qui est très importante et quelques petites anecdotes, si vous en voulez. C'est typiquement aujourd'hui, au sein même des entreprises, en fait, on vit, je ne sais pas, vous connaissez peut-être tous le burn-out. Il y a le burn-out qui est le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et il y a le brown-out, ça c'est un terme qui est extrêmement important, qui a été théorisé par deux chercheurs. C'est celui d'exécuter des tâches qui sont contraires à son éthique personnelle. Et là, typiquement, sur ce point, en fait, nous, on vient apporter aussi une solution. C'est qu'on veut que les pratiques évoluent au-delà du greenwashing. Typiquement, nous, il y avait une des entreprises, je ne vais pas citer le nom parce que c'est enregistré, mais qui nous avait dit, la personne chargée de com, en fait, il nous a dit, moi, personnellement, je me détache de la situation. Personnellement, je vous soutiens, alors que l'entreprise est boycottée. Voilà, c'est ce qui est assez intéressant. Donc, on dit, on a une devise, je vais finir sur ça, c'est boycotter seul, c'est bien. Ensemble, c'est le contre-pouvoir. Avec bienveillance, c'est le changement. Merci.
Samuel.
Bravo. Samuel, je fais partie de l'association Les Bricodeurs. Ça fait un an et demi qu'on est à Lyon. Nous, ce qu'on fait, c'est on a commencé par expérimenter dans pas mal de choses et on est surtout dans le numérique. Donc, on est sur deux volets que vous avez dit tout à l'heure, l'éducation au numérique et l'accompagnement de projets citoyens. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on essaye de faire comprendre aux personnes et leur apprendre comment ça marche un petit peu derrière l'ordinateur. C'est-à-dire, on apprend à la programmation. Donc, à la fois pour les enfants, on fait des ateliers pour les enfants pour leur apprendre la logique et leur permettre d'acquérir les bases de la logique qui permettent de comprendre et de coder, en fait. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire coder dans le public? Non? D'accord. Ben, coder, parce que je pars du principe que tout le monde sait, mais c'est vrai que moi, je suis freelance dans le numérique et ça fait que 2 ans que j'ai appris à coder, mais depuis 2 ans, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que c'est, parce que quand on rentre dans l'univers de la programmation, tout semble logique et on oublie que en fait c'est pas simple de rentrer dedans. Donc coder en fait c'est apprendre les langages qui permettent de communiquer avec un ordinateur. Donc il y a plein de langages différents qui existent, et les langages les plus accessibles dans un navigateur, c'est le HTML et CSS. C'est ce qui permet de positionner les choses au bon endroit sur l'écran. Donc ça, c'est il y a des langages qui permettent ça. Et donc, on apprend aux enfants à comprendre comment ça marche. On a aussi on fait aussi des meet-up pour apprendre aux adultes à apprendre à coder. Donc là, c'est plus du côté professionnel, apprendre un langage informatique pour par la suite faire du travail là-dedans. Et donc, nous, on n'est pas une formation, donc on est plutôt là pour leur donner envie, leur faire tester, et s'ils aiment bien, après, on les guide vers des formations plus professionnelles. Voilà, donc on fait pas mal de choses en fait dans l'association, on est un peu sur plein de volets en même temps. Et on fait aussi du coup l'accompagnement des projets citoyens, et donc ça c'est un programme plutôt récent, parce qu'en mars on a fait la première édition de la Nuit du Code Citoyen, qui est en fait un hackathon. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un hackathon? Voilà. Hackathon, c'est en fait c'est un événement pendant lequel des gens, surtout des développeurs, donc ceux qui savent coder et faire des sites web, vont faire des projets ensemble, et c'est en fait une espèce de un travail intensif mais ludique, parce que ils sont là pour créer des projets qui leur plaisent. Et pendant lequel, pendant par exemple un jour et une nuit, ils vont créer des projets. Donc on a accompagné ça, et on avait une thématique cette année, c'était sur la démocratie. Donc d'où un peu la raison d'être ici. Et donc voilà, ça c'est les deux volets qu'on fait.
Merci. Merci. Eric Guichard.
Bonjour. Merci à vous deux pour ces exemples un petit peu fabuleux et presque magiques. Alors, comment je pourrais essayer de décliner les choses pour donner un angle d'attaque? Peut-être que ça serait le plus simple à partir de ce que vous venez de dire, pour peut-être dire, et vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que ça devrait aller, qu'aujourd'hui, par exemple, programmer, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans, programmer, c'était pas loin de faire des mathématiques. Aujourd'hui, on peut arriver à programmer, à juxtaposer des petits bouts de code et obtenir des résultats de manière presque ludique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est... Je dis aujourd'hui parce que s'il y a une transformation qui a été induite par Internet, il y a eu des désagréables, mais il y en a une qui est très favorable, c'est le fait que... c'est beaucoup plus facile de programmer aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Quand il n'y avait pas de réseau, on ne savait pas à qui s'adresser quand on était en panne, etc. Mais donc c'est a priori facile, c'est quelque chose qui relève du ludique. Et je compare ça souvent à une sorte de combinatoire textuel. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez des balles pour jongler, et vous jonglez avec, vous en mettez deux dans un endroit, ça vous fait une carte orange, trois dans un autre, la carte elle devient rouge en fonction d'un résultat électoral, etc. Donc il y a quelque chose qui a l'air relativement simple et qui est simplement un peu très étendu. C'est-à-dire je peux très facilement, a priori, dessiner un caractère chinois ou dessiner tout court ou retoucher une photo, etc. Alors pourquoi je prends cet exemple simple? Pour insister sur le fait que, en fait, moi j'ai tendance à interpréter l'Internet comme un nouveau système d'écriture où, effectivement, comme dans l'ancien temps, on apprend un peu les lettres de l'alphabet, on les compose, ça fait des mots, on les compose un peu plus. De manière un peu plus sophistiquée, ça fait des phrases. Quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, on va le chercher dans le dictionnaire, on apprend quelque chose. Et quand on veut construire sa pensée, à un moment, il va falloir arriver à mettre bout à bout des fragments de mots qui vont avoir du sens pour autrui, quoi. Et ce qui est excessivement intéressant, c'est que cette activité qui est un peu technique, hein, c'est des recettes qu'on apprend à l'école, au lycée, etc., structure un peu notre capacité à penser. C'est-à-dire que c'est l'art de manier les dispositifs d'écriture qui va vous donner une certaine compétence documentaire, un certain art critique, parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer trois textes écrits que trois témoignages oraux que vous avez eus. Vous allez perdre la moitié des choses à l'oral, etc. etc. Donc on peut imaginer que c'est par ce dispositif d'écriture qui est un peu sous-estimé, composé de recettes, etc., que se déploie notre activité intellectuelle. C'est exactement ce qui se passe avec l'Internet, avec juste deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'écriture est complètement chamboulée. C'est plus du tout c'est pas la plume sergent-major d'auparavant. C'est de l'encodage UTF-8 et non pas un bon alphabet latin comme on le connaissait. C'est des protocoles, des processus, des méthodologies qui sont un petit peu différentes, qui nous donnent même à penser que notre rapport entre cette technique primitive qu'est l'écriture, ou un peu élémentaire, et une activité intellectuelle élaborée, est d'autant plus bouleversé que l'écriture elle-même change. C'est-à-dire qu'on se pose des questions différentes avec l'Internet qu'au temps de l'imprimer. Alors, la première chose, c'est une sorte de grand chamboulement qui peut faire que énormément de gens soient à l'aise avec le dispositif d'écriture actuel, mais énormément d'autres soient mal à l'aise. Et le deuxième problème, c'est que ce chamboulement, il est un peu permanent. C'est ce que j'appelle l'instabilité scribale. Si vous avez un peu d'expertise dans le domaine, vous pouvez remarquer qu'un programme que vous avez écrit il y a 10 ans, il ne marchera pas. Pour faire plus simple, une imprimante que vous avez achetée il y a 10 ans, vous ne pouvez sûrement pas la brancher sur l'ordinateur que vous avez acheté hier. Un format de fichier d'il y a 10 ans, il est à peu près illisible aujourd'hui. Bon. Alors, il y a des solutions pour compenser ça. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait qu'on pourrait avoir l'illusion de vivre une période de grand bonheur, puisqu'on a des dispositifs d'écriture qui sont excessivement accessibles et qui sont souvent faits par les machines. En même temps, ce qu'on se rend compte au niveau de la pratique, c'est que, de ma part, statistiquement, je rencontre beaucoup plus de gens qui sont esclaves de leur ordinateur ou de leur téléphone portable que l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, ils vont mettre 3 heures à chercher comment se fait un truc, etc. Et la chose sur laquelle je voudrais insister au final, c'est que aujourd'hui comme hier, le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent particulièrement bien l'écriture. Au XVIIe siècle, quand vous aviez 5% de la population britannique qui savait lire et écrire, les gens imposaient leur goût politique, leurs valeurs politiques, leurs normes, leurs goûts, y compris leurs goûts théâtraux. C'est-à-dire si Shakespeare a eu un grand succès dans toute la Grande-Bretagne, y compris chez des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, c'était du fait du pouvoir des gens qui pouvaient diffuser ses idées par l'intermédiaire de revues, de journaux, etc., mais aussi par la parole, par la thématique des débats qui pouvaient être choisis en disant bah, « si on veut parler de culture, on va parler de ça plutôt que de ça ». Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se produit. Le problème, c'est qu'on a eu l'impression que à peu près tout le monde savait lire et écrire il n'y a pas encore si longtemps. Je crois qu'on est à peu près à 80-85% d'alphabétisés en France, peut-être un peu plus. Mais si on regarde les personnes qui savent lire et écrire vraiment sérieusement avec ces machines et avec ces réseaux, c'est-à-dire qu'ils savent par exemple lire en diagonale un fichier d'un million de signes, qu'ils savent facilement faire des calculs, des additions, des synthèses, trouver la bonne information sur des moteurs de recherche variés, etc., il est fort possible que ce nombre de personnes soit réduit à quelques millions d'individus sur Terre. Donc ça veut dire qu'à la fois, on a un dispositif d'écriture qui change, ce qui peut nous rendre un peu optimistes, même si ça va nous obliger un peu à travailler pour le maîtriser. Et en même temps, il faut faire un peu attention, parce que si ce système d'écriture tombe un peu dans la poche de personnes qui ne sont pas toujours d'une bienveillance maximale ou qui veulent simplement maximiser leur profit, comme on dit classiquement, ces personnes vont avoir le pouvoir de transformer le monde non pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes moraux, idéologiques, en définissant ce que sont, par exemple, les nouvelles valeurs morales et les bonnes et les mauvaises. Voilà. je peux en dire peut-être beaucoup plus et je pourrais parler 3 heures, mais je pense que je peux peut-être m'arrêter là aussi et je peux compléter l'éclairage si vous le désirez.
Bien. Merci. Merci, Eric Descartes. Des questions ?
Donc je ne me le représente pas, Jérôme Pivin. Une question à vous trois. En fait, Internet, ça fait plus de démocratie, moins de démocratie. C'est une question un peu bête, mais comment vous ressentez les choses ?
Typiquement, nous, si on donne un témoignage personnel, c'est nous, on a créé tout cela en fait à partir de rien. Et clairement, si on n'avait pas Internet, on n'aurait pas pu faire tout cela. Je pense qu'il y a des dangers, et comme il l'a très bien expliqué, en fait, c'est qu'à partir du moment où on arrive à maîtriser ce qui est le bon du mauvais, en fait, c'est clairement quelque chose de positif. Là-dessus, nous, on prend un exemple qu'on aime bien donner. Par exemple, tout ce qui est financement, il y a les financements participatifs, etc., qui permettent d'être plus ou moins indépendants. On n'a plus besoin d'aller chercher à la banque des fonds, etc., pour financer quelque chose, et ça, c'est grâce à Internet. Sur le boycott aussi, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un point important, c'est que le boycott, c'est une action individuelle, mais collective. Voilà, vraiment, ce qui s'inscrit dans une dynamique collective. Et ça, ça se marie parfaitement avec Internet, dans le sens où on s'engage à boycotter avec des milliers de personnes, mais c'est un engagement moral. C'est qu'on ne va pas aller derrière vérifier si la personne boycotte vraiment. Et là-dessus aussi, du coup, ça s'inscrit parfaitement. Et le troisième point, il y a des plateformes aussi qui s'inspirent, Ma Voix, La Primaire, qui s'inspirent beaucoup de cette mouvance d'Internet qui permet d'offrir, en fait, de toucher le maximum de personnes tout en ayant, avec ce côté un peu automatique, algorithmique, de respecter la démocratie par la majorité. Et voilà, donc c'était, moi je pense que c'est clairement un point positif pour... je connais rapidement. Typiquement, La Primaire, en fait, primaire.org, ils sont partis du principe qu'il n'y a pas de démocratie en France, démocratie représentative. Du coup, la vraie démocratie, entre guillemets, elle s'inspire du modèle athénien à l'époque, c'est qu'il y a un tirage au sort qui est fait parmi des personnes qui se sentent qui est candidat. Et à partir de là, en fait, il y a tout un système à travers une plateforme. Donc, il y a le système de blockchain. Je ne sais pas si vous connaissez le blockchain. Ça permet en fait de sécuriser des voix par Internet, vraiment grosso modo. Et les personnes vont voter typiquement la personne qui a été tirée au sort. Et ça, c'est complètement démocratique. Et Ma Voix, ils ont fait un peu le même système, mais du côté des législatifs, où là, il y avait un député qui était élu, donc tiré au sort. Et le député, en fait, il devait respecter la majorité sur chaque amendement. C'était vraiment un courroie de transmission, quoi. Il devait respecter ce que la communauté allait dire sur tel ou tel engouement. Il n'y a pas eu beaucoup de députés, mais c'est encourageant. Il y a une dynamique qui s'installe, qui est assez positif.
Ouais, juste pour ajouter un petit point. La différence entre les deux, c'est la primaire, eux, c'est une utopie alternative, donc en fait un système de démocratie, haute qui permette de mettre en avant des personnes qui ne sont pas forcément... Eux, je pense qu'ils visent plutôt la présidentielle et Ma Voix plus législative. C'est ça, mais en tout cas, l'impact qu'il y a eu, c'était... Elle a réussi à entrer dans la politique très rapidement, quoi. Ce qui est assez formidable, et ça, c'est grâce en tout cas à Internet.
Oui, comment l'éducation peut contribuer à mieux utiliser le numérique, le comprendre pour une meilleure démocratie?
Ça, c'est une grande question parce que l'éducation, c'est pour beaucoup, c'est un peu la solution miracle à tous les problèmes. On dit toujours que c'est à cause de l'éducation que les choses ne vont pas. Il faut éduquer. De toute façon, il faut éduquer les gens pour qu'ils puissent participer à la démocratie. Et pour ça, il faut les éduquer à s'intéresser à la vie autour d'eux, à, beaucoup de choses. Alors après, éducation au numérique ou non, l'éducation numérique, c'est plus pour, en tout cas, comprendre un peu plus ce qui se passe et garder un œil sur le fait que beaucoup de gens consomment le numérique sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est important de pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière, parce que derrière, c'est, quand on prend le cas de Facebook, c'est des algorithmes qu'on a du mal à cerner souvent. Donc c'est important d'avoir l'éducation numérique pour, là c'est plutôt pour pouvoir rester éveillé par rapport aux dangers qu'il peut y avoir dans le numérique.
Eric Guichard, comment alors, l'éducation peut y contribuer ?
Peut-être partir d'un exemple concret, j'ai envie de dire, il y a du boulot mais c'est jouable. Alors l'exemple concret que je vais donner, c'est, je fais ça avec mes étudiants. Vous regardez un site web, par exemple votre site web, parce qu'au moins vous avez accès à deux, trois informations, et vous regardez tous les gens qui viennent vous lire. Hein, on dit par exemple là, j'entends parler de réseau de 150 000 personnes, etc. Donc on pourrait supposer par exemple que dans les associations évoquées, il y a 100 000 personnes par jour qui viennent sur le site. Même si on avait 100 000 par jour, ce n'est pas du tout ce nombre-là qui vient sur le site. C'est à peu près 20 fois plus. 20 fois plus. Ça veut dire que c'est fondamentalement des robots. Alors on va se dire, oh, c'est bien, ça veut dire que Google vient me référencer. Comme ça, quand les gens taperont un mot-clé, ils tomberont sur mon site. Oui, mais Google ne représente qu'une infime partie de toute une série de robots qui forment une sorte d'économie du web, du numérique, qui est complètement méconnue. Et ce que je veux dire, c'est que si on prend, par exemple, on prend l'exemple du commentaire de texte, je vous donne un texte informatique à peu près structuré, il n'est pas très beau, mais ça vous dit, tiens, il y a monsieur numéro tant, il est venu me voir pour regarder telle page web à 4h du matin, etc. Vous allez être obligé de vous initier un peu à des scripts, à un minimum de code, de culture informatique, parce que bah, il faut bien, quand le fichier fait 4 millions de lignes, vous ne les apprenez pas par cœur le soir pour essayer d'en faire la synthèse le lendemain. Après, vous allez repérer les acteurs principaux, vous allez voir que les humains en chair et en os, ils représentent le meilleur des cas 5% de ces gens qui s'intéressent à vous. Et après, vous allez voir qu'effectivement, qu'il y a des structures économiques qui sont très complexes, qui renvoient aussi à l'intelligence économique, c'est-à-dire en fait de l'espionnage industriel, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que en plongeant concrètement dans l'univers, dans l'Internet, par exemple dans les textes qui sont produits automatiquement par l'Internet, on acquiert d'abord une sorte de culture technique, par exemple du script, du code, etc. On acquiert aussi une sorte de culture économique des grands acteurs qui sont en général assez méconnus des Français. Et on acquiert aussi une pensée critique qui permet de se dire « Ah, ben tiens, celui-là, pourquoi il vient si souvent ? Qu'est-ce qu'il me veut ?» etc. Et comment ces gens s'associent les uns avec les autres, de quels pays sont concernés, etc. etc. Donc, ce que je pense, c'est que la chose est tout à fait réalisable. Elle n'est pas en opposition avec une forme de culture plus traditionnelle. Par exemple, il y a un gros problème avec les experts du numérique, c'est qu'ils ont aucune culture historique de l'industrie ni des techniques, et ça les rend un peu naïfs par rapport à des phénomènes qui sont récurrents depuis un siècle ou deux, ou des choses comme ça. Ça n'annule pas la réflexion philosophique, au contraire, ça peut l'alimenter, parce que à partir de choses concrètes, on peut essayer d'imaginer des nouveaux, même éventuellement des nouveaux questionnements ou des nouvelles thématiques, nouvelles problématiques, etc. etc.
Moi, je reste très dubitative, en fait, parce que je suis utilisatrice de change.org, en fait, hein. Quant à la puissance, en fait, du résultat au niveau de l'action, je citerai simplement un exemple où moi, j'avais beaucoup participé, c'est sur le musée des tissus, en fait, je dirais, de Lyon. Finalement, on s'aperçoit que si on ne met pas la main à la poche, s'il n'y en a pas un décideur politique qui se décide, comme ça a été le cas du président du conseil régional, le nombre n'a pas, je dirais, dans le temps, pourtant, ça a été très, très répétitif. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que le nombre ou soit si influençant que ça. Et oui, bah on fait un clic, mais la qualité, les, les moyens de pression. Et c'est pour ça que moi, je reste très dubitatif par rapport aux expériences que j'ai eues, par rapport au site, en fait. Alors,
ça, c'est vraiment une question super pertinente parce qu'en en fait, on est parti de ce constat, exactement. Parce que là, ce que vous évoquez, c'est le clicktivisme. Si je vous pose une question toute simple, est-ce que vous savez aujourd'hui le nombre de pétitions que vous avez signées ? Et où ça en est ? Et c'est là que la question se pose. Nous, à la base, quand on avait lancé ce projet, en fait, il y avait une pétition qui avait réuni 1 million de signatures fin décembre 2014 contre TAFTA et qui avait été invalidée par la Commission européenne. Et là, on s'est dit, bon, c'est très bien les pétitions, ça peut, entre guillemets, c'est une forme de mobilisation citoyenne, ça peut faire changer des choses, il y a eu des victoires, mais par contre, c'est loin d'être l'outil le plus efficace, on va dire, de ce côté-là. Sur le boycott, en fait, je vais vous donner quelques petits exemples, peut-être que ça peut convaincre là-dessus. C'est que nous, concrètement, on a eu plusieurs victoires. Ça veut dire que, typiquement, il y a une association Vida qui a lancé une campagne de boycott contre Jouet Club, qui a réuni pas beaucoup de personnes, 4000 personnes. Jouet Club a mis fin à un partenariat de 30 ans avec les Cirque Pinder parce qu'ils exploitaient des animaux sauvages. Et ça, ça a été fait, pourquoi ? Parce qu'on est loin de personnes qui vont aller donner le pouvoir, donc de manière passive à travers les pétitions, c'est ce qui se passe, c'est que je donne mon pouvoir à une personne ou une association pour qu'elle, elle agisse. Là, c'est chacun prend le pouvoir. C'est vraiment le boycott, c'est un pouvoir individuel. C'est pour ça que vous avez, quand vous participez à une campagne de boycott sur les boycotts, vous avez le pouvoir de décider, de juger la réponse de l'entreprise. Et typiquement, là, il y a eu cette victoire. Quand on avait lancé une campagne de boycott contre H&M sur les conditions de travail au Bangladesh, il y avait un millier de boycottants au début. On a eu la chargée de com, directrice de France en fait, chargée de com de France, au téléphone en disant pourquoi nous, qu'est-ce qui se passe, comment on doit agir. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que toutes les entreprises, ils ont une cellule de veille sur le boycott parce que ça touche les deux piliers de la société de consommation qui est l'image de la marque et l'argent de l'entreprise. C'est vraiment les deux nerfs de la guerre. Et aujourd'hui, en fait, quand on ressort et qu'on touche les domaines des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est d'où la puissance en fait, du numérique, c'est qu'un message, il peut s'étendre extrêmement vite. Typiquement, on avait fait une vidéo de sensibilisation sur l'huile de palme. Il y a eu 750 000 vues en fait en moins d'une semaine. On avait fait une vidéo sur Starbucks. On demandait aux clients qui sortaient de Starbucks pourquoi vous buvez chez Starbucks, qu'est-ce qui vous plaît. Savez-vous que depuis 2004, ils ne payent pas d'impôts sur la société. Les gens, ils sont scandalisés. 2 millions de personnes atteintes. Et c'est là le pouvoir, en fait, qui se marie super bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège du clicktivisme. Et ça, nous, on a pallié sur le fait qu'on inclut les acteurs dans le processus de décision. Voilà. Si ça répond à la question.
Peut-être dire brièvement qu'effectivement, par exemple, dans des enjeux politiques... C'est mieux d'être 1000 manifestants dans la rue qu'un million de pétitionnaires, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'une bonne intelligence, par exemple des effets d'image, etc., peut avoir des effets aujourd'hui intéressants.
Il faut noter aussi que nous, le principe en fait même du truc, c'est qu'à la base, c'est qu'on voulait court-circuiter tous les décideurs politiques ainsi que les lobbies pour mettre en relation directe l'entreprise et les consommateurs. Voilà. C'est le seul lieu d'expression de l'entreprise lorsqu'il y a un scandale qui expose sur un domaine où ils peuvent s'exprimer auprès des boycottants. Mais on garde toujours la main en tant que consommateur. On est bienveillant mais pas naïf, on va dire.
Moi ? Alors moi j'ai une question un petit peu naïve, mais parce que j'ai un enfant de 5 ans qui est à la maternelle et j'ai entendu dire qu'on commençait à aborder la programmation ou des techniques de programmation très tôt à l'école, etc.
Ouais, c'est le cas maintenant.
Vous évoquiez Monsieur Guichard, que finalement le pouvoir ou l'influence à une certaine époque c'était la maîtrise du langage. Je sais qu'il y a un patron de start-up américain qui disait que les développeurs étaient les nouvelles rockstars, etc. Et du coup, je me dis, est-ce qu'un jour, nos enfants n'auront pas plus envie d'apprendre à programmer que la grammaire française ou des choses... Enfin voilà, c'est une question un petit peu...
Je vais peut-être répondre un petit peu. en fait, c'est une question en fait, qui, qui concerne le plus le fait que l'humanité, elle évolue. Et donc, aujourd'hui, on est en contact avec la technologie. Et pour utiliser la technologie, il faut savoir programmer. Donc, tant qu'on est en contact avec la technologie, si nos enfants, ils grandissent avec la technologie, en fait, c'est en fait un peu naturel dans l'évolution qu'ils apprennent à programmer. Donc, moi, je pense que oui, c'est fort probable que qu'ils apprennent moins la grammaire que le ça, parce qu'en fait, il y a des logiciels qui permettent de corriger toutes les fautes. Même, on pourrait imaginer, ça existe déjà, des programmes qui écrivent juste en parlant. Donc, il y a des programmes comme ça qui sont créés pour des dyslexiques. Enfin, même, c'est pour tout le monde, ça, c'est accessible. Donc la question, elle est en fait, on se pose la question sur le fait que la technologie, elle est là, en fait, avec nous, elle est globale. Donc, c'est important de savoir programmer pour communiquer avec elle. On peut être juste consommateur et être devant la surface et interagir, mais ça nous donne moins de possibilités d'action.
Alors, je vais répondre peut-être un peu longuement, parce que, en fait, j'ai presque envie de dire programmer et apprendre la grammaire, c'est pareil. La différence entre... la grammaire française est un petit peu plus souple, mais elle structure la langue, comme vous le disiez, qui, à la différence des choses qu'on emploie dans la programmation, est polysémique. Si je dis, par exemple, la maison... ça peut être aussi bien la maison Habsbourg que ma maison ou quelque chose qui renvoie à la maison mère d'une entreprise, etc. Si j'emploie le mot print en informatique, ça veut dire ce que ça veut dire. Et je peux faire une faute d'orthographe dans maison. Si je fais une faute d'orthographe dans print, ça va pas marcher. Donc, ce qui me semble important, c'est de... peut-être de signaler qu'il y a plus de proximité que prévu, que l'apprentissage du code peut donner envie, par exemple, de découvrir ce que c'est que la grammaire. Moi, je sais que j'utilise, il y a un outil linguistique et il s'appelle Tritagger. Vous balancez n'importe quel mot, ça vous donne sa forme lemmatisée. C'est-à-dire, si je parle, elles ont voyagé E accent aigu, ça me dit ça c'est le participe de voyager, etc. Et je ne suis pas nécessairement mécontent, parce que je me rends compte aussi qu'il y a plein d'ambivalences qui sont soulevées. Par exemple, avion, est-ce que c'est les avions qui volent, est-ce que c'est nous qui avions, etc. Donc j'ai un peu l'impression que certaines formes d'outillage informatique d'aujourd'hui donnent des éclairages complémentaires sur des phénomènes qui sont déjà difficiles à analyser, et le fait qu'il y ait deux éclairages au lieu d'un est quelque chose qui est plutôt positif. Alors, je défends évidemment toujours des versions un peu luxueuses. Monsieur demandait, est-ce que Internet accroît la démocratie? Au sein d'une élite, oui, ça c'est sûr, ça accroît la démocratie. Ailleurs, peut-être pas. Mais peut-être qu'il faudrait... Alors, ça, c'est aussi parce qu'on est un peu acculturé à l'informatique, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce que ça fait ni à quoi ça ressemble, mais il y a quand même une énorme informatique aujourd'hui qui est complètement dédiée au langage, aux mots, à la recherche d'expressions. Moi, je connais des collègues qui font des logiciels où vous leur donnez tout Wikipédia et ils vous disent ça, c'est le sujet, ça, c'est le verbe, ça, c'est la conjonction, et ça, c'est... Bon, c'est hallucinant, quoi, ça marche plutôt bien. Alors, c'est... quand même la version luxe. Mais ce qui me semble, c'est qu'il faudrait, par exemple, de manière militante, au-delà de certains apprentissages du code et des choses comme ça, toujours rappeler que tous ces savoirs et savoir-faire vont tous ensemble, et que ça serait un peu stupide d'en négliger un au profit de l'autre parce que l'autre est à la mode.
Moi, une question, c'était par rapport à la société inclusive, puisque je dirais qu'aujourd'hui, c'est très à la mode. On veut intégrer tout le monde, société inclusive. Est-ce que, franchement, ça permet d'inclure tout le monde?
Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Qu'est-ce qui permet du coup le numérique, est-ce qu'il est accessible? C'est ça la question? Ouais. Donc là, c'est le numérique ou c'est l'apprentissage du code, du coup?
Je peux répondre rapidement. Ouais. En fait, on vit dans une société qui est profondément exclusive. Hein. Les pauvres sont plus pauvres et plus nombreux, et les riches sont plus riches. Et je reprends un peu les propos de Patrick Chamoiseau dans son dernier ouvrage « Frères migrants », où on a une capacité à fermer nos frontières par rapport à tous les gens qui souffrent, qui est assez impressionnante, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que quand les choses vont mal, il faut un remède magique. Donc, le remède magique, en ce moment, ça fait à peu près 20 ans que ça dure, c'est le numérique. Alors, ça ne prend pas toujours ces formes-là. Aujourd'hui, ça prend dans une forme très généraliste, c'est le numérique. Récemment, c'était... en ce moment, c'est le cloud. Ça marche bien. Donc ça nous réglait tous les problèmes sociaux. Avant, il y avait eu les réseaux sociaux. Avant, il y avait le web 2.0. Avant, il y avait l'Internet lui-même, etc. Et même avant, remarquent les philosophes, non, les historiens des techniques, on nous a bien dit que la bombe atomique allait nous apporter la paix. Hein. Donc il faut qu'on soit très, très vigilant par rapport au discours d'escorte qu'on nous produit sur les techniques et surtout sur les nouvelles techniques. Parce qu'en général, ils sont, osons le mot, complètement mensonger, fondé sur absolument aucune expérience et proprement idéologique, comme disent les historiens des techniques. Quand on vous dit que les nouvelles technologies vont changer le monde en général est encore plus stable et immobile que jamais.
Donc, Eric, vous nous invitez à démythifier cette technique qui aurait un pouvoir à elle toute seule. Donc, ça nous...
Si vous voulez, c'est-à-dire que savoir si la technique a le pouvoir ou pas, c'est une affaire compliquée, on peut s'entre-déchirer pendant des jours, etc. Ce qu'on peut simplement faire, c'est avoir un rapport un peu apaisé, équilibré par rapport à la technique, en disant que, un, on s'en sert quand même tous les jours, là on parle avec des micros, on a besoin d'électricité, c'est quand même... c'est pas moi qui ai taillé ma veste, j'ai besoin de lunettes, on va chez le plombier, chez le plombier, chez le dentiste pour faire des plombages, etc. Bon, on est truffé de techniques et il ne faut pas opposer la technique à la société. Tout simplement, on est dans une sorte de coexistence. Moi, je pense qu'il y a un lien beaucoup plus fort qu'on peut l'imaginer, par exemple, entre technique et culture. Je vous parle tout de suite du... je sais pas, du train du Grand Express ou du Transsibérien, vous allez tout de suite vous mettre à rêver, imaginaire, grande steppe, train de luxe, apaisement du rythme des wagons sur les rails, etc. Il y a énormément d'imaginaire, on peut le regarder aussi avec la télé, etc., qui se déploie autour de la technique, au dernier moment de choses qui nous construisent, qui... par exemple, le fait qu'il y ait un métro à Lyon facilite cette rencontre tout de suite, parce qu'il nous suffit une demi-heure pour se déplacer ici à partir de chez nous, etc. Donc, on ne jette pas la pierre à la technique. En revanche, là où il faut faire attention, c'est quand une technique nouvelle apparaît, souvent, il y a des accaparateurs qui en profitent bien. Ils en profitent parce qu'ils peuvent faire énormément d'argent, construire des nouveaux marchés économiques, etc. Ce qui, à terme, est tout à fait tolérable. C'est-à-dire que vous regardez les bagarres autour du chemin de fer dans les années 1850 ont été atroces. Et c'était, j'ai envie de dire avec humour, c'était comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui prenaient des risques, les entreprises se retrouvaient en faillite et c'était l'État qui payait. Mais l'entreprise restait propriétaire des trucs. Bon. Aujourd'hui, le train, bon, c'est peut-être un peu en enjeu, mais on n'a pas l'impression que... on pense que c'est quelque chose qui est très utile, ça ne correspond plus du tout à ce que c'était au tout début, ça a été profondément socialisé, détourné, etc. Quoi. Là, pour les techniques dites nouvelles, il y a effectivement un petit nombre d'acteurs qui arrivent à se les approprier et qui sont aussi violents avec d'autres acteurs qui pourraient l'être avec nous-mêmes. Il ne faut pas simplement dire que les gros acteurs californiens sont méchants avec nous en tant qu'individus. Je ne suis pas nécessairement un grand défenseur de l'entreprise, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'entreprises de Rhône-Alpes qui sont obligées de donner de l'argent à Google pour être référencées, pour des logiques de publicitaires. Ça leur coûte des fortunes. Donc, c'est une économie contre l'autre, quoi. La chose à laquelle il faut faire attention quand même, c'est qu'il y a toute une série de bonimenteurs, ce que je pourrais appeler les grands prêtres de la technique, qui, eux, vont pouvoir essayer de se construire une sorte de petite fortune sociale ou médiatique en prétendant définir les vertus ou les inconvénients de la technique en question. Et des bonimenteurs sur la technique, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Là, il y en a beaucoup et ils parlent à peu près que du numérique. C'est vrai que si on regarde tous les discours, la majorité des discours que j'entends sur le numérique, surtout les discours grand public, ils sont tous faux et profondément idéologiques.
Pour rester dans le monde des entreprises, justement, est-ce que les outils de décision collective numérique peuvent changer le pouvoir, la répartition des pouvoirs à l'intérieur d'une entreprise entre les parties prenantes, management, salariés et autres?
Je voulais juste rebondir, après je reviens juste à la question sur la société inclusive. Je pense que c'est vraiment important, vu que la thématique c'est la démocratie. C'est que là aujourd'hui, en fait, à quel point c'est inclusif la société, dans le sens où tous les 5 ans on va aller voter pour un choix démocratique et après on va retourner entre guillemets à nos train-train quotidiens. Il y a des solutions, par exemple, pour montrer l'exemple qui existe, qui commence à se mettre en place. J'ai un ami qui est là, c'est High Petition Law, c'est-à-dire c'est des amendements qui vont être construits par les citoyens et proposés par les députés. Et à côté de cela, je vais donner un autre exemple où là, je rejoins complètement ce que monsieur a dit, c'est que la technique doit être au service. Si à partir du moment où elle est décisionnaire, là, ça commence à être un danger. Un exemple parmi d'autres, c'est Booking. Je pense que vous utilisez beaucoup Booking. Le problème de Booking, en fait, vous pouvez voir au niveau des hôteliers français, ils sont totalement asphyxiés. Booking, ils ont une politique qui est très simple, qui dit que vous avez 90%, par exemple, des réservations de vos chambres, ça passe par Booking. Du coup, votre commission, c'est plus de 13%, mais c'est de 18%. Et du coup, voilà, il y a un monopole qui est exercé, et c'est la technique, c'est-à-dire Booking, qui est juste une interface qui va relier les consommateurs et les hôteliers, qui va prendre en fait le dessus, le monopole, et qui va mettre la pression sur les vrais hôteliers qui travaillent au quotidien. Donc voilà, c'était vraiment pour mettre ces deux exemples à terme, mais c'est vraiment la technique au service comme un levier pour les consommateurs.
Oui, déjà merci pour les interventions. Et juste pour revenir du coup sur la question de la démocratie, tout à l'heure vous parliez de ma voix et de la primaire, ouais, c'est ça. En fait, du coup, j'avais l'impression que là où Internet pouvait créer de nouveaux espaces de pouvoir ou un peu, je sais pas, réinventer la démocratie, tout ça, c'était plutôt en créant des nouveaux espaces un peu décentralisés, alternatifs aux institutions habituelles, et comme iBoycott par exemple, et que du coup, des initiatives comme Ma Voix ou tout ça qui... aussi intéressante soit-elle. Je me demandais si, en se calquant du coup sur les institutions qu'on connaît, sur les processus qu'on connaît, un peu la manière dont on fait la démocratie habituelle, donc en reprenant l'idée de voix, de décision par la majorité, tout ça, est-ce que, dans quelle mesure c'est pertinent par rapport à d'autres initiatives qui, du coup, vont plutôt dans le sens de donner un pouvoir plus décentralisé et... plus alternatif à ce qu'on connaît d'habitude.
Ouais, juste pour rebondir là-dessus, c'est une belle question. C'est en fait la question, si je la résume, c'est pour toi, ma voix ou la primaire, en fait, c'est la grosse contrainte, même si c'est une alternative via le numérique, c'est qu'on joue les règles du jeu et au final, la décision va être politique. Je sais pas si. C'est typiquement ça en fait. Et moi, je rejoins un peu ton discours là-dessus, c'est que si on n'a pas changé profondément le système entre guillemets sur la redistribution des cartes, c'est difficile de remettre en question avec les règles de jeu imposées en fait par ce système-là, quoi. Et c'est pour ça sur iBoycott, nous on a voulu en fait ce changement de paradigme. Où le pouvoir, en tant que consommateur, nous l'avons en fait, dans une société de consommation. C'est pour ça que ça se différencie peut-être par rapport à d'autres alternatives politiques.
Pour défendre du coup ces deux projets, pour moi, ces deux projets qui ont la particularité d'être des projets de transition et qui sont là pour ils se disent eux-mêmes qu'ils hackent la démocratie. Donc, ils ont trouvé un moyen pour aller mettre des gens qui vont pas être des politiciens de métier. Dans les hautes sphères de la politique et donc c'est pas une finalité en fait. Pour moi, c'est des projets qui vont améliorer la démocratie Et après, il faudrait plus peut-être une plateforme en fait, qui permettrait de la démocratie beaucoup plus directe à l'échelle d'une nation. Ça, c'est l'utopie. Mais on ne peut pas le faire d'un coup. Il faut pouvoir... en fait, il y a beaucoup de règles qui sont en place, donc on ne peut pas d'un coup tout changer. C'est difficile à réaliser.
Dans le micro, vous pouvez parler dans le micro pour qu'on vous entende bien.
En fait, c'est juste que j'avais l'impression qu'à partir du moment où on restait sur ces mêmes bases, élections, tout ça, qu'on utilise d'autres moyens, le numérique, pour proposer à plus de gens, peut-être faciliter l'accès, que de toute façon, ça ne permettra pas de renouveler les bases sociales et... Même si on met des plateformes en place de ce genre de plateforme, quoi.
Oui, Nicolas, oui. Nicolas Froissart.
Après, on parle beaucoup de rapports de force et de confrontation. Mais ce que je trouve qui était intéressant, enfin, il n'y a pas si longtemps, c'est Axel Lemaire, donc, qui était ministre au numérique, qu'on avait reçu d'ailleurs dans une conférence, sur la loi sur le numérique, a essayé, alors il faudrait voir quel a été le bilan, mais de faire aussi participer les internautes qui ont pu proposer des amendements pour enrichir ce projet de loi. Et je crois que, enfin, c'est très bien, il faut qu'il y ait des vrais contre-pouvoirs, et je pense qu'on en est au tout début, et il faut que des plateformes se développent pour être un vrai contre-pouvoir vis-à-vis du politique. Je pense que c'est important aussi d'accompagner le politique pour développer ce type de dispositif aussi, et de ne pas toujours être non plus uniquement dans la confrontation, mais d'accompagner aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être que ça va se développer, les politiques qui ont envie d'être dans des démarches, et on sait, parce que la France est un pays quand même aussi encore extrêmement cloisonné, enfin, qui a du mal, en tout cas dans les hautes sphères, de l'État à s'approprier ces démarches-là. Et je crois que voilà, quand il y a une initiative comme celle-ci, il faut l'accompagner parce que ça va aussi passer par de la co-construction. Et voilà, il faudrait, je ne l'ai pas en tête, mais voir quel a été le bilan exact de cette démarche participative sur la loi numérique. Mais je crois qu'il y avait eu vraiment beaucoup d'internautes qui avaient proposé des amendements. Et certains, je crois, qui avaient été plutôt... tu veux...
Je profite qu'on parle de ça pour rebondir dessus, puisque j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence qui parlait justement de la démocratie participative via des plateformes internet pour faire en sorte que des citoyens puissent proposer des changements. Donc de ce que j'ai retenu, c'est qu'en France, ça a été partiellement un succès. En fait, le gouvernement et le Parlement étaient décisionnaires, a choisi quelle partie ils voulaient garder et quelle partie ils ne voulaient pas garder. Par contre, ce qui se fait, c'est qu'à Taïwan, ils ont réussi à porter cette initiative et à justement... à monter l'ensemble du processus avec un succès sans que le gouvernement ne mette de motion de censure. Et du coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez en dire un mot, de savoir ce que vous en pensez, et est-ce que c'est quelque chose vers laquelle on pourrait aspirer à tendre ?
Prenez la parole.
Oui, sur Taïwan, ouais, je pense que en tout cas, c'est un peu, ça reste un peu la même situation, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décisionnaire à la fin, de toute façon. Mais je vais pas rentrer dans ma conclusion tout de suite, parce que en tout cas, pour ce qui s'est passé à Taïwan, j'ai pas particulièrement connaissance. Je sais que, enfin, je vois les différents projets qu'il y a et puis les gens qui les font, mais en tout cas, il y a eu des. Mais de toute façon, il y a un système législatif qui est en place, et le fait de le court-circuiter avec un autre système, ça pose une première question. Enfin, voilà, c'est des changements de système qui sont substitués l'un pour l'autre. Donc, que ce soit à Taïwan ou ailleurs, ça reste une question ouverte qui n'est pas résolue par le fait que ce soit sur Internet ou dans une salle, quoi, je pense. Bon, en tout cas. Mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment.
Bonsoir, j'ai une question par rapport à ce qui ressort en résultat sur Internet, comment je dépersonnalise mes recherches. parce que en fait, je suis un peu maintenant dans une bulle. Quand je vais sur Facebook, il n'y a que les pages que j'aime qui ressortent. Quand je fais un clic sur Google, c'est que les résultats que je veux qui ressortent. Comment j'ouvre mon horizon virtuel, aussi virtuel soit-il, mais comment je l'ouvre, comment j'ai des informations contradictoires, comment je compare des faits et des contre, enfin des vérités, les fake news, on en a entendu parler, voilà, entre les faits et les points de vue, les opinions, alors qu'il n'y a que les opinions que moi j'aime bien qui ressortent. Donc comment je dépersonnalise l'Internet ?
Je commence peut-être par donner un élément de réponse. Boycotter Google et Facebook. Moi, je ne suis pas connecté sur Facebook. Alors, vous me dire, ouais, c'est un vieux, c'est normal. Ceci dit, j'ai mes petites lettres de noblesse. J'étais un des premiers sur Facebook en 2005. Et puis, ça ne m'a pas passionné, donc j'ai arrêté. La question du moteur de recherche est une question effectivement complètement grave. Alors, moi, j'utilise un outil qui s'appelle DuckDuckGo, qui marche tant bien que mal. Je suis obligé de faire des circonvolutions. D'un autre côté, j'ai... Non, c'est un moteur de recherche comme Google, etc. Non.
Lilo et Ecosia, je crois, ils se basent sur Google, mais DuckDuckGo et Quant, qui est français.
Alors, l'idée, de toute façon, n'est pas d'inciter à un boycott d'un truc ou l'autre, c'est complètement stupide. Mais et déjà, moi, j'aimerais bien faire une enquête en regardant quel pourcentage de la population française qui utilise au moins deux moteurs de recherche. Et je crois qu'on arrive à moins de 1%, moins de 1 pour 1000. Et si on définit comme lettré du numérique les personnes qui utilisent au moins deux moteurs de recherche, c'est pas méchant, hein, je veux dire, c'est pas savoir faire le moindre script, etc. Ça serait comme regarder les gens qui, dans leur foyer, ont deux dictionnaires. Hein. Et on voit tout de suite à quel point peuvent se produire ces formes de ségrégation culturelle en matière de numérique. Et là, la seule solution que j'ai, peut-être que ça me vient de mon défaut génétique d'universitaire, c'est effectivement, là ça passe par un peu toutes les thématiques que j'ai entendues, c'est les questions qu'on pose à ses proches, c'est l'enseignement, c'est le débat public, etc. etc. Et c'est ça que je trouve très très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pur régime technique, hein, c'est de l'écriture, c'est de la technologie de l'intellect, c'est quelque chose où, a priori, ce qui relève du code, de la grammaire informatique, est intimement lié à des questions sur l'enfermement, la bulle de savoir dans laquelle vous êtes enfermé, sur l'impossibilité de communiquer avec les autres ou d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, etc. Donc on est dans un régime où on a effectivement énormément de strates culturelles qui sont connectées. C'est-à-dire, on va dire la strate conceptuelle, l'accès au savoir, la strate beaucoup plus technique qui consiste à programmer, et la strate intermédiaire des usages qui consiste à dire « Bon, ben, je vais essayer de me servir au moins de deux machines différentes ou de deux moteurs de recherche différents ou de deux logiciels de traitement de texte différents. » C'est déjà magique, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et, alors, si vous... On va peut-être un peu continuer sur la forme dure, là, j'ai l'impression que ça marche un peu. Mais si vous regardez le nombre de personnes qui utilisent deux moteurs de recherche différents, et deux logiciels de traitement de texte ou équivalent, parce qu'il n'y a pas que ça, différents, et qui connaissent, voilà, et qui ont deux ordinateurs différents, c'est-à-dire par exemple un Mac, un Windows ou un Linux, regardez-moi le nombre de gens que ça fait, et si vous dites que tous les autres, c'est des incultes, avec lesquels les grandes entreprises de l'écriture numérique peuvent jouer comme elles veulent, ben vous verrez un peu le mode de l'avenir qui se présente à la majorité des gens. Bon, c'était un peu pessimiste, hein, parce qu'avec l'éducation, on peut faire énormément de choses, et ça peut aller très vite. Hein. Moi, j'ai des étudiants complètement littéraires, ils apprennent tout très vite et tout. Quoi. Donc, mais puisque j'ai l'impression que j'ai fait glisser un petit frisson d'effroi dans la salle, j'en ai un peu abusé.
Après, il y a la navigation anonyme. Hein. Ça, c'est toujours possible.
Allez. Vous faites comment ? Vous faites comment ?
Non, mais il y a des navigateurs, par exemple, alors, je ne retrouve pas le nom, c'est Oignon. Et DuckDuckGo, il est dessus. Voilà, c'est ça.
Il me semble que c'est quelque chose comme ça, au moins une trentaine de paramètres différents entre l'heure, la localisation, l'adresse IP, tout ça. Donc juste le moteur de recherche, même si je change de moteur de recherche, après voilà, c'est les résultats de moteur Google ou les résultats du moteur Quant ou autre, mais il y a tellement d'autres paramètres, on peut pas être complètement privé.
Après il y a l'oignon, enfin je sais pas si je me trompe pas, comment ça s'appelle ?
C'est Torch.
C'est Tor. Tor, c'est un exemple où là, c'est, on The passe Onion, par 7 serveurs différents, on est complètement anonyme. Là-dessus, c'est ce qui est utilisé généralement quand on fait des trucs pas juste très... Il y a 10 heures à comprendre comment ça va.
Aujourd'hui, c'est une platitude de dire que le citoyen de l'Internet n'est pas vraiment respecté comme le citoyen de la planète. Il est sujet à des hackings, on va mettre son nom sur des listes, il est espionné, il est, si ce n'est humilié par des trolleurs, utilisé dans des bases de données, il est en prison, il n'a pas vraiment de liberté d'expression au-delà de ce que le système lui autorise de dire. En tout cas, c'est l'impression qui se dégage de cet Internet coupé en deux entre un Internet complotiste et non complotiste, un Internet citoyen, un Internet anti-citoyen. Et finalement, cet usager du plus grand service public du monde, qui compte 3 milliards d'usagers à peu près, c'est, on est dans ces ordres-là, c'est le plus grand service public du monde, je crois, devant tous les autres, l'Internet. S'il était conçu comme un service public, si on commençait à penser la chose commune de l'Internet, le commun de l'Internet comme une chose, un patrimoine public qu'il faut respecter, dont il faut respecter les usagers et les citoyens, le monde serait certainement beaucoup meilleur. Et comment faire, comment arriver peu à peu à donner une identité que les internautes ne soient pas considérés comme des pseudo ou des ID, des URL, mais des citoyens enregistrés qui ont le droit de protester, de se défendre quand il le faut, de se référer à des droits de l'Internet, de voter, de proposer des lois en commun, d'avoir un droit de regard et d'expression sur la gestion collective de l'espace public. Pourquoi ne pas inventer, et là je me tourne vers le philosophe aussi, vers Ray Boycott, ne pas inventer un système où les internautes auraient une identité numérisée, une identité qui corresponde à une identité réelle. Et pourquoi voir tout ça comme un risque là où devrait commencer une véritable responsabilité commune? C'est un peu long comme question, je m'excuse, mais je vois que tu as affaire à des très grands experts.
Vous répondrez aussi. D'abord, il faut faire attention, parce que si on commence à donner une identité numérisée à tout citoyen au moment où il est sous des régimes de surveillance excessivement denses, on risque plutôt de le malmener que de favoriser son émancipation. Deuxièmement, je pense effectivement que c'est un point qui doit faire débat. Alors, ça dépend des pays. On a un collègue hollandais qui nous dit que quand il veut faire une conférence sur la surveillance des citoyens par Facebook, il est obligé de louer l'Opéra d'Amsterdam tellement il y a de monde qui veut participer. Je pense que si aujourd'hui on veut faire une conférence sur Facebook et la surveillance à Lyon, c'est peut-être pas la peine de louer l'Opéra de Lyon. Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus que 60-70. Bon. La chose est... J'espère que la chose va se régler. Je pense qu'on est dans ce que je rappelais tout à l'heure sur... Les logiques des techniques qui sont appropriées par des individus qui font énormément d'argent, etc., mais qui développent aussi des systèmes industriels. On est dans, j'espère, une des phases ascendantes les pires du déni de citoyenneté, d'expression, du fait qu'on est effectivement... nos traces sont revendues, c'est-à-dire on est vraiment presque du bétail, quoi, ou quelque chose comme ça. Et ça va à un moment se stabiliser et ça va redescendre. Les modèles économiques vont changer, mais c'est drôlement facile de faire changer un modèle économique. Il y a Andrew Finberg qui disait qu'en 1850, il y a des bonnes âmes qui se disent « Oh, c'est pas beau que les enfants travaillent dans les usines ». Les industriels ont tous dit « Mais on peut absolument pas empêcher le travail des enfants, sinon il va falloir casser toutes les machines ». Les Chinois vont arriver déjà, ils vont créer, déjà qu'ils étaient très concurrents, ils vont nous rapter tout le marché textile, etc. Les bonnes âmes bienveillantes ont tenu bon, et au bout de 10 ans, l'industrie américaine s'est retrouvée avec des machines textiles à hauteur d'adultes, et ça marchait encore mieux qu'avec les enfants. Donc on peut changer un système économique assez rapidement et assez radicalement. Alors j'ai aussi une certaine forme d'optimisme que je voudrais quand même transmettre en disant que ces sujets commencent à être un petit peu brûlants à mon gré et on peut espérer qu'ils commencent à gêner énormément de gens et que ça va peut-être venir des lettrés du numérique. Peut-être qu'il va y avoir des solutions alternatives qu'on va rencontrer. Et à ce moment-là, le paradoxe, ça voudrait dire que ce serait chez les ingénieurs et programmeurs californiens que viendrait une sorte d'innovation politique qui ferait qu'on serait un peu moins des denrées périssables et interchangeables sur le réseau.
Ouais, là-dessus, moi, je suis quand même moins optimiste. Parce que quand on voit, enfin, je ne sais pas, hein, il suffit de voir la situation, par exemple, des lanceurs d'alerte, ou l'émoi que ça a fait le scandale de la NSA, quand on a su que nos alliés américains tout simplement espionnaient le monde entier, et l'état actuel de Snowden, c'est un exemple qui est frappant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Je pense qu'il peut y avoir un changement. Les solutions alternatives, l'open source, des associations comme Framasoft existent, donnent des solutions, mais quand on voit que tout le pan de l'éducation nationale est donné à Microsoft, tout simplement, on se pose quand même des questions sur la volonté politique. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette volonté politique? Et si elle existe, pourquoi aujourd'hui on est dans une telle situation? Typiquement, regardez le documentaire sur Snowden, il est assez frappant en fait sur la profondeur de l'espionnage. Parce que c'est vrai qu'il y a l'espionnage publicitaire, ça on peut dire, bon, les entreprises utilisent ça, ils ont un appât, on va dire un profit derrière, mais l'espionnage de la NSA, ça va encore beaucoup plus loin. C'est l'espionnage de chaque citoyen comme potentiel, entre guillemets, terroriste ou futur ennemi, ou voilà. Donc, moi, je suis moins optimiste.
Samuel ?
Moi, je vais donner un peu plus d'optimisme, du coup. Donner l'exemple d'une plateforme qui utilise une technologie dont on a parlé vaguement tout à l'heure, qui s'appelle la blockchain, et qui permettrait de donner une identité numérique, donc unique à chaque personne, et qui serait sécurisée de manière décentralisée. C'est-à-dire, en fait, la blockchain, elle permet de sécuriser la chose, rendant en fait accessible uniquement à la personne ces données. Donc, c'est une sécurité qui fait que normalement, la NSA, elle ne peut pas aller tout prendre parce qu'elle n'a pas les capacités de le faire.
En parlant de sécurité, c'est... Oui, vous retournez.
Peut-être qu'on va devoir arrêter. Non et du coup, Bitnation, donc il y en a d'autres qui font ça, mais leur projet, c'est de créer donc une identité unique à chaque personne de la planète. Et à partir de ça, commencer à peut-être créer une monnaie une monnaie unique à tout le monde et faire de la démocratie, du coup, voilà, avec vraiment un pied d'égalité entre tous les participants toutes les personnes de la planète. Donc, moi, je suis optimiste quand même sur le fait qu'il y a des solutions qui existent et au fur et à mesure, elles apparaissent, on les teste et on verra bien de toute façon où ça va nous amener.
Question ?
Oui, juste une dernière question qui va basculer du débat un peu philosophique au débat très pratique. Donc, pour moi, chaque achat est un vote. Un vote pour produire, un vote pour une façon de transporter, si c'est loin, s'il vient des prêts. Du coup, ma question, c'est... Bon, j'ai deux points. Le premier point, c'est les noms de boycott. Je trouve que c'est un petit peu négatif. Et moi, je suis plus dans le positif. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je cherche aussi... quand j'achète n'importe quoi, même au supermarché, je passe énormément de temps à chercher quel produit est plus juste, équitable, machin, etc., pour l'environnement et tout ça. Donc, j'achète aujourd'hui beaucoup moins de choses qu'avant parce que je passe du temps à chercher qu'est-ce qui va bien. Donc, les sites qu'on boycotte, ça me convient complètement. La seule chose, c'est que vous aviez dit qu'on peut aussi... si, par exemple, Starbucks ou H&M, ça ne va pas... Les boycotteurs peuvent proposer des alternatives. Donc, par exemple, pour Starbucks ou H&M, qu'est-ce qui avait été proposé?
La meilleure alternative pour Starbucks, c'est la première. Donc, du coup, les personnes votent et on classe ça par ordre. C'est le bistrot du coin, tout simplement. Voilà. Qui paye des impôts. Voilà. Et après, vous pouvez retrouver chaque... Ce n'est pas forcément des marques. Ça peut être des marques, mais ça peut être aussi des mouvements. Par exemple, sur le petit navire, il y a les marques comme Fard, Ekmul, Connectable, etc. Mais il y a aussi le mouvement végétarien. Bah, ne mangez plus de poisson, tout simplement. Quoi. Voilà, ça peut être, c'est vraiment complètement participatif là-dessus. Et sur, je ne sais pas si tu as fini les... Ah, si vous avez fini
oui, HM par exemple, parce que j'ai du mal.
HM, il y en a, il y a 1083, etc. Y a des, ça commence en fait hein, sur le textile, mais c'est beaucoup plus difficile. Et le prix, forcément, il est répercuté. Après, il y a d'autres personnes qui disent Emmaüs, Le Bon Coin d'occasion. Bah, c'est d'autres solutions. Mais c'est vrai que là-dessus, on voit aussi la nécessité de créer des alternatives là-dessus. Il y a des amis qui travaillent sur WeFair Dress, justement, qui permet d'agréger l'ensemble des sites en fait, qui travaillent là-dessus. Et sur le mot boycott, j'aimerais revenir là-dessus. On s'est vraiment posé cette question, nous. C'est vrai que le boycott, en fait, ça avait une connotation très négative. En France, particulièrement en France, pas aux États-Unis où c'est très utilisé. On a regardé un peu l'histoire. Qui a utilisé le boycott? Je pense que vous avez des exemples de personnes qui ont utilisé le boycott de façon magistrale. De tête? Martin Luther King qui l'a utilisé, ouais. Mandela, Nelson Mandela qui l'a utilisé, qui a mis fin à l'apartheid. Il y a Gandhi aussi, qui est très connu, qui l'a utilisé en fait contre l'empire colonial britannique. Ils ont montré que c'était le boycott, c'était un outil efficace, mais aussi pacifique. Parce que nous, on avait considéré, si on utilisait un autre nom, le boycott par exemple, qui était beaucoup plus soft, on s'est dit, mais c'est quand même fou parce que le boycott, dans une société de consommation, c'est une liberté d'expression. Et elle est encadrée par la loi. Pas de discrimination, dénigrement, diffamation et contrefaçon. C'est comme si vous allez interdire le mot liberté d'expression parce que ce que vous allez dire va être, entre guillemets, dénigrante. C'est normal, c'est illégal. Mais là-dessus, en fait, sur le boycott, c'est pour ça qu'on a gardé le mot, parce que l'objectif premier d'iBoycott, c'est de démocratiser le boycott qui est l'outil pacifique du peuple. Quoi. Ça répond à la question.
Bien. Je voulais juste dire un mot parce qu'on en a parlé beaucoup de l'éducation. Enfin, juste un exemple, parce que moi, donc, j'habite à Paris. Et à Paris, je ne sais pas si c'est le cas à Lyon, il y a un budget participatif où une partie non négligeable du budget parisien est affectée à des projets qui sont à un moment donné proposés par les Parisiens. Juste pour dire à quel point la démocratie aussi participative ou directe est même compliquée si elle se fait sans éducation. Je me suis aperçu dans mon arrondissement, donc le 18e à Paris, qu'en fait, la majorité des projets qui, à un moment donné, étaient désignés, il faut que ce soit des projets qui soient proposés par des habitants, et ensuite, il y a un vote. Et en fait, au niveau d'un arrondissement, le mien, le 18e, je me suis aperçu, même si ça part d'une... Et je crois qu'ils apportent des modifications, mais en tout cas, je m'étais aperçu évidemment, au niveau d'un arrondissement, c'est les quartiers les plus bobos, qui proposait le plus de projets et qui, du coup, votait le plus. Et en fait, sur quelque chose qui part d'un bon sentiment, au final, ne sont retenus que des projets dans les quartiers où ça va bien. Donc tout ça pour dire qu'en fait, parce que les classes populaires, c'est moins leur truc d'aller sur Internet pour proposer des projets, c'est moins leur truc de participer à ce genre de démarches, c'est moins leur truc d'aller voter. On parlait du numérique, de l'éducation numérique. Enfin, tout ça pour dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur une démarche de participation maximale des citoyens, à quel point ça peut être compliqué s'il n'y a pas d'éducation. Donc c'est pour ça que je trouve que l'éducation au numérique, l'éducation tout court, c'est fondamental. Et en tout cas, il faut construire les deux de façon très, très proche. Sinon, la démocratie participative directe, elle peut finalement être aussi dévoyée parce qu'on sait bien que ceux qui vont participer à un moment donné, c'est les classes les plus favorisées, les plus éduquées. Donc je trouve que ça peut être dangereux de se dire plus de démocratie participative si, ou en tout cas extrêmement hypocrite, pas dangereux mais hypocrite, si à côté de ça, on ne donne pas les moyens à tous réellement de participer.
Alors justement, quand on parlait d'éducation et vous parliez effectivement de bobo. Alors moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Je me suis sentie proche de ce que vous disiez. Parce que moi, je suis dans l'éducation prioritaire. Et justement, excusez-moi, et justement, on nous propose d'amener les élèves au numérique. Hein. Et alors moi, j'ai aucune formation, hein, je veux dire, à part un crayon à papier. Je pense que je suis handicapée du numérique. Mais par contre, effectivement, comme tout langage, je pense qu'il est extrêmement important qu'on l'apporte à tous. Le seul problème, c'est que quand j'ai vu effectivement que c'était Microsoft qui allait avoir tout ça et qu'on allait donner à nos élèves des tablettes, je me suis un petit peu renseignée. Et dans les établissements où c'est déjà le cas, eh bien eux, en fait, c'est Facebook et c'est YouTube. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous vend. Et quand on nous fait des formations et qu'on nous vend effectivement d'un point de vue très très idéologique, hein, toutes ces nouvelles technologies, en nous disant que bien évidemment ça va leur donner un métier, ça va les sortir de la pauvreté, du racisme, enfin ça défend tout, hein. C'est un peu comme l'arme nucléaire que dont vous parliez tout à l'heure, hein, c'est la solution à tout. Là, c'est vrai que dès qu'on commence à se poser un petit peu des questions et qu'on dit mais attention, ces personnes qui nous vendent tous ces beaux produits n'ont pas leurs enfants dans des écoles où on les utilise, ou en tout cas pas comme ça. Alors là, on m'a traité de vieille réac et on m'a dit que bon, effectivement, ils devaient penser que j'étais prête de la retraite, mais pas tout à fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à argumenter contre ces personnes et à essayer de me saisir vraiment... Du problème de façon intelligente pour faire avancer le débat. Bon, c'est aussi fin de non-recevoir parce qu'ils font valoir l'argument d'autorité, formateur, machin, bidule, patin, couffin, le chien. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué de ramener le débat sur quelque chose d'intelligent et d'intelligible. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir avoir quelques pistes.
Bon, j'essaie de répondre un peu, mais d'abord, je ne sais pas si j'ai les éléments de réponse. Ce que je remarque, effectivement, c'est qu'on arrive quand même à des aberrations. On a des États qui sont supposés préserver le bien public, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de donner de l'argent à des multinationales étrangères. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait au point, quoi. Hein. Et pendant ce temps-là, j'ai un ami traducteur égyptien qui me disait, il vient à Lyon, il me dit... J'ai acheté le dernier, c'était le Larousse ou je sais pas quoi, dictionnaire de la langue française, 46 euros. Tu crois pas que l'État français pourrait quand même l'offrir à tout le monde, à tous les gens qui sont intéressés? Effectivement, là, on se dit, il y a un dysfonctionnement général qui est assez grave. Alors, ce qu'on peut... Là, j'essaye d'être un petit peu optimiste parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je raconte un peu les mêmes histoires et les gens me prennent pour un illuminé. Et là, ça va mieux. Ça veut dire que la pensée critique du numérique commence à avoir droit de cité. Et la dernière preuve que j'ai eue de ça, qui a été presque la plus touchante pour quelqu'un comme moi, c'est quand j'ai fait une conférence grand public auprès des entrepreneurs au Palais des Congrès. Et j'ai l'impression que les entrepreneurs me disaient, ben oui, ça va, on l'a compris, le mirage du numérique, ça ne tient pas la route, on dépense de l'argent, on perd tout et ça ne rapporte pas, ça rapporte rien. Donc on peut imaginer que, par exemple, du côté des entreprises, du côté des individus, du côté des militants aussi, hein, il y ait une prise de conscience qui se produise par rapport au numérique. On peut espérer effectivement que ce qu'a montré Snowden, ça finisse par... entrer dans les mentalités, dans les systèmes de raisonnement. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. J'ai aussi envie de dire que, on faisait des grandes considérations sur la sociologie cet après-midi avec des collègues. C'est une aberration, hein, cette signature de contrat entre le ministère de l'Éducation et Microsoft. Et la photo est magique, hein, on l'a tous vu. Le monde de l'éducation nationale n'est pas homogène, c'est-à-dire ils ne sont pas tous rue de Grenelle en bloc contre vous. Il y a des fissures, j'en ai des preuves, je ne vais pas vous dire, mais il y a par exemple des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui ont une pensée très très fine, très intelligente du numérique. Et moi je trouve que l'argument, par exemple le numérique c'est quelque chose qui renvoie à l'écriture, donc il faut maîtriser l'écriture, mais il faut maîtriser aussi... sa grammaire, etc. Et ça va de pair avec une pensée critique, finit des fois par porter. Quoi. Donc, mais je pense, on parlait de politique et d'élection présidentielle tout à l'heure, on est capable de s'entre-déchirer entre Français sur un point politique que je considère mineur. Je suis assez étonné de voir que la question technique en tant que telle n'est pas à l'agenda politique. Personne n'a évoqué ces questions, par exemple, d'éducation, de surveillance, de culture par exemple, des députés. Les députés qui connaissent quelque chose au numérique, on les connaît tous, ils sont quatre. Hein. Et il y en a une, elle est morte, c'est Corinne Erhel. Elle est morte il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça. Alors, on peut dire, être aussi un peu optimiste en disant, le pauvre député, il faut qu'ils connaissent tout sur le prix du lait, sur le numérique, sur les contestations des médecins. Et bon, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai qu'à la fin, vous me dites, il y a 60 dossiers, il ne peut pas tout gérer, quoi. Mais là, sur ce plan-là, moi, je pense vraiment qu'un bon débat de société avec les voisins, entre les citoyens, avec une récurrence, en demandant des locaux, etc., finira absolument par porter ses fruits parce que on n'a pas des réponses à donner en disant voilà, le code c'est bien ou c'est mal, ou l'enjeu politique c'est ceci ou cela. Ces questionnements vont s'inventer à partir des débats des gens, en écoutant ce qui se produit déjà, par exemple à Amsterdam, en Californie, à Berlin et ailleurs, ou dans des pays beaucoup moins confortables, hein, les choses comme ça. Et là, moi j'ai un grand espoir, bon, c'est historique, hein, en l'inventivité humaine et en collectif. Si je puis me permettre de continuer sur un point, il y a quand même une chose avantageuse que nous apprend l'Internet et le numérique, c'est que la pensée est essentiellement technique et collective. Technique, on le voit parce qu'on utilise les ordinateurs, on passe son temps à cliquer avec la souris, on a besoin d'une machine pour penser, a priori, quoi. Elle est collective parce qu'on voit bien que tout ce qu'on lit, ça a été écrit par d'autres. Hein. Donc on réalise bien qu'on ne pense pas tout seul. Ça veut dire que là, il y a quand même un gros schisme par rapport à ce qui se passait, nos représentations en 1900, des représentations sur lesquelles s'est fondée l'école publique. Et je suis content qu'elle soit fondée comme ça. Mais on pensait quand même qu'il y a des intelligents et des imbéciles et que la pensée, elle est un petit peu intérieure, elle se construit, elle se ressasse. C'est même Hegel qui explique ces choses-là. Quoi. Et là, on a la preuve du contraire, donc une forte technicité, un aspect fortement collectif de la pensée. On peut aussi embrayer là-dessus pour produire des nouvelles formes de pensée.
Ça sera notre dernière question. Donc, je me tourne vers vous, Clément Renaud. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu que nous n'avons pas saisi
beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Alors, c'est un peu difficile de synthétiser, mais je vais essayer de faire ça. Alors, bon, là-bas, la première chose, je pense qu'il y a assez. Que tout le monde sait, je pense, mais c'est ce que j'ai. J'ai pris des notes, alors je regarde mes notes. Oui, c'est qu'il y a eu plein de mots étranges, quoi. Plein de mots bizarres qu'on entend et puis qu'on ne sait jamais ce que c'est. Alors, j'ai noté des trucs. Donc, boycott, burnout, c'était quoi? Combinatoire textuel, instabilité scribale, blockchain, code, clictivisme, enfin, tout un tas de différentes façons de parler de l'Internet. Et puis, bon, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et puis, pas que de l'Internet, mais de la technologie numérique. Et donc voilà, et puis notamment, bon, je vais peut-être commencer par ça, je vais essayer de ne pas être trop long. Hein, de faire attention aux mots quand on parle à l'Internet, je pense que ce que disait, bon, c'est ce qu'on pense un peu tous, mais c'est que, en fait, la méconnaissance de comment ça fonctionne, et puis le fait que ça apparaisse magique, c'est en fait le premier piège qu'on a avec l'Internet, et puis ce qui rend vraiment, avec les technologies numériques, je veux dire, ce qui rend difficile. Par exemple, là, je sais que tout le monde, un peu, on parle tous, par exemple, le mot de plateforme. Pour moi, c'est un mot qui me fait un peu à chaque fois hérisser les poils parce qu'en fait, on se demande ce que c'est. Et puis quand on se dit, par exemple, ça va être remplacé par une plateforme. Mais finalement, une plateforme, pour connaître, je sais pas moi, si vous allez dans une, c'est des entreprises déjà la plupart du temps. Hein, par exemple, si vous prenez, si vous dites Uber, c'est une plateforme, par exemple, ou Facebook, c'est une plateforme. Vous pouvez aller à Facebook. Moi, je connais des gens qui travaillent à Facebook. Ils y vont le matin. Il y a des gens dans une pièce. Ils prennent des décisions. Après, ils écrivent le code que les gens voient sur leurs écrans, ils prennent des décisions sur ce que les gens vont voir, comment ça va être affiché, quelle couleur ça va être, quelle taille. Donc l'idée même de plateforme, je pense que déjà c'est un truc qu'il faudrait bannir du vocabulaire parce que c'est en fait ça substitue le concept. On a l'impression que c'est une espèce de magie technologique alors qu'en fait c'est une série de décisions humaines et puis que c'est beaucoup plus complexe quelque chose d'automatique ou de qu'est-ce que en fait c'est une série de décisions et puis de choses quotidiennes. Et qui sont prévus par des gens. Et en fait, je vous dis ça parce que moi, je travaillais beaucoup sur l'Internet en Chine. J'ai vécu en Chine longtemps, puis j'ai fait une thèse sur l'Internet en Chine, et puis j'y vais souvent, etc. C'est mon métier, réfléchir sur l'innovation et les technologies en Chine. Et donc, toutes les conversations qui sont ici, moi, ça renvoie à ça, parce que notamment sur la démocratisation de l'Internet, ou l'Internet comme vecteur de démocratie, parce que depuis le début que l'Internet est arrivé en Chine, quand vous lisez toute la littérature dans les journaux, mais aussi dans la, les articles scientifiques, en tout cas occidentaux, c'est « Oh, c'est génial, ils vont enfin avoir la démocratie, ça y est, ça va arriver par l'Internet, c'est sûr. » Donc, il y a cette espèce d'idée que l'Internet va amener la démocratie en Chine. Et donc, c'est le mythe du blogueur chinois. Moi, pour vous dire, j'ai travaillé avec les gens qui ont monté la Chinese Blogger Conference, donc les gens de Wikipédia Chine, etc. C'est des amis, je les connais bien. Bon, là, je vois tout à fait, j'ai des amis qui sont le mythe du blogueur chinois que vous avez vu à la télé, quoi. Mais en fait, bon, ils essayent d'amener quelque chose, mais c'est pas l'Internet déjà qui amène ça. Enfin, bien sûr, ça les aide à écrire, et puis ça les aide à publier, puis à se faire connaître, mais c'est pas l'Internet qui amène ça. C'est des travails de gens qui ont des conditions de vie assez difficiles, finalement, parce qu'ils sont traqués, c'est assez compliqué. Et donc, et dans la question des plateformes, c'est pareil. Donc on va dire, ah bon, bah, il y a le gouvernement et puis les utilisateurs. Puis bon, il y a Facebook au milieu, mais c'est un peu comme avec les révolutions arabes, par exemple, enfin, le printemps arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe. Alors c'était les révolutions Twitter. Mais en fait, Twitter, ils n'ont rien fait. Ils sont en Californie, ils sont 50, voilà, ils sont dans une pièce. Ils ont fait quelque chose qui existe, mais c'est donc de substituer toutes les actions comme ça à cette idée d'une plateforme et puis qui donne quelque chose d'automatique. Donc je pense que ça, c'est un peu la chose, enfin. Et en fait, pour moi, c'est ça, quand on parle d'éducation au numérique aussi, c'est pas forcément une éducation. Il y a la partie technique qui est primordiale. Moi, je suis développeur, je sais ce que c'est de coder, entre guillemets. Mais même dans cette idée de code, bon, bah, l'alphabet, c'est un code, bah, tout le monde l'a appris. Bon, bah, voilà, il y a des codes, ça prend. Bon, bah, c'est comme ça, on en apprend plein. Il y a le code de la route, enfin, voilà. Mais c'est plus pour dire que, finalement, au-delà de l'éducation juste technique, de la dimension technique dans l'éducation au numérique, c'est comment ça fonctionne humainement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a tout un circuit économique, politique, et c'est là où on arrive à une discussion sur la démocratie, pas dans le fait d'utiliser ou de savoir coder, c'est dans le fait de comprendre comment sont prises les décisions qui font en sorte que les institutions sont en place, que les outils marchent, que les routes sont comme ça. Enfin voilà, c'est là qu'on commence à comprendre les processus décisionnels, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, etc. Et là, je pense qu'on arrive à une idée de démocratie ou à une idée d'action, en tout cas sur la société, qui est intéressante. Et donc c'est au-delà d'être juste... Donc bon, moi là, je cristallise sur l'idée de plateforme parce que c'est tellement récurrent des fois que ça, je trouve que c'est un mot qui devient dangereux, quoi, dans le discours sur Internet, parce qu'il est utilisé à tort et à travers en disant oui, les plateformes, tout va devenir une plateforme. Bon, bah voilà, non, c'est... Et puis surtout, pour parler plus à titre personnel, mais moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent dans toutes les boîtes de Facebook, de Google, enfin pas beaucoup, mais quand même, derrière BNB ou... même Creative Commons ou des trucs de Linux, enfin tout un tas de gens qui travaillent dans ces trucs-là, mais c'est des gens, ils existent. Enfin, je veux dire, c'est pas des plateformes, c'est des vrais gens, quoi. Et puis l'autre chose aussi, donc par rapport à la démocratie Internet, puisque c'est ça le sujet, donc au-delà de l'éducation, c'est notamment sur la question, par exemple, de la véritable identité et de comment on peut arriver sur Internet, enfin la relation entre soi et Internet, quoi, au niveau de l'identité notamment. Bon, alors la bonne et mauvaise nouvelle, c'est que ça existe, hein, cette idée d'avoir sa vraie identité sur Internet. Et c'est appliqué, en Chine, c'est appliqué. Donc, c'est-à-dire, on prend sa carte d'identité quand on ouvre un compte sur Facebook. Et puis, on prend sa carte d'identité, et après, c'est lié à sa carte. Quand on achète des billets de train, on prend sa carte d'identité aussi, parce qu'on achète. Enfin, voilà, il y a tout un système, qui est même maintenant un système de qui s'appelle social scoring, donc il y a un score social. Qui est basé sur ce que vous faites sur Internet, votre score de crédit aussi, comment vous dépensez votre argent, est-ce que vous avez des dettes. Enfin voilà, donc c'est pour dire aussi la puissance de contrôle de ces choses-là, qui ne sont pas juste, comment dire, encore une fois, juste des idées ou voilà, des idées de surveillance qui sont très abstraites. Là, en Chine, c'est très concret, et puis c'est vraiment un programme politique. Là. Et à la fois, ce que je trouve fascinant en ce moment, c'est que justement, comme ces questions, comme disait Eric, je pense que c'est vrai, elles deviennent de plus en plus fortes, ces questions de critique numérique, et notamment sur les questions économiques de protectorat. Quoi, on file notre argent à Facebook, mais on devrait avoir un Facebook français, alors dans tous ces trucs-là, du Made in France et tout ça. Du coup, on a un concept qui arrive en ce moment, super fort, qui s'appelle la souveraineté numérique, qui est un peu dire, voilà, il faut un territoire souverain de l'Internet français ou européen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui arrive directement... en tout cas sous cette forme-là de la Chine. C'est-à-dire que le modèle dans l'Internet chinois est en train de devenir un modèle, en fait, pour le développement de l'Internet futur. Et je pense qu'il faut, y a des choses où il faut faire attention. Enfin, je ne dis pas ça... Et donc, c'est pour ça... ouais, ça me fait rire, mais ce n'est pas drôle. Mais en fait, comment dire, ce n'est pas si triste. Hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément... Il n'y a pas qu'une partie totalitaire et horrible. L'Internet, comment vous dire ? en Chine, les gens, ils font comme ici, c'est-à-dire que on rit, on pleure, on s'aime, on se déteste. Enfin voilà, on vit avec quand même tous les jours. Moi, j'ai mon téléphone, je l'ai tout le temps dans la main, je parle avec ma mère, mon père, mes amis, ma femme. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est important. Et après, je pense que il y a la réflexion sur comment ça. Comment dire, quand je dis l'Internet est en train de devenir comme un Internet chinois, etc., parce qu'il est en train de justement se politiser, que les décisions elles doivent être prises, et que la forme qu'a Internet, elle est. Elle n'est pas décidée par la technologie, elle est décidée par une série de décisions humaines, de gens qui prennent des décisions sur la forme que ça va prendre. Et que je pense que le plus grand danger, en tout cas, avec la technologie en général, c'est de substituer. La technique a son fonctionnement, c'est-à-dire de se dire c'est comme un couteau, quoi. Je veux dire, un couteau, est-ce que c'est bien ou mal? Ça dépend. Enfin, je veux dire, je pense qu'on en fait, quoi. Moi, ça sert vachement quand même. Mais bon, après, ça peut être très dangereux. Donc l'Internet, c'est exactement pareil. Je pense que la technologie, elle a un côté comme ça, très neutre. Et puis après, derrière, elle est très. Là, le numérique en ce moment, c'est très très investi idéologiquement. Mais comme Eric parlait tout à l'heure pour le train ou pour un des grands problèmes. Je pense que c'est un discours du nouveau tout le temps, c'est-à-dire que c'est nouveau, ça vient de sortir. Il n'y a rien qui vient de sortir. Enfin, le fait Internet, oui, il y a des choses qui changent, mais comme a dit Eric, c'est un système d'écriture. Si on regarde la façon de circuler, depuis les lettres et puis l'invention de l'écriture, il y a tout un fondement qui n'est pas nouveau. Donc c'est plus de prendre une réflexion, de réfléchir au numérique comme juste un processus humain et puis la continuité de l'histoire humaine, quoi, plutôt que quelque chose de nouveau qui va tout détruire ou qui va tout sauver. Je pense que c'est. Et c'est ça l'enjeu, je pense, de construire un peu d'amener une réflexion sur le numérique et puis qui fera qu'on peut penser après les modes de gouvernance, les questions de démocratie vraiment plus intéressantes et d'éducation.
Merci. Ce sera le mot de la fin. Une belle conclusion. Merci. Merci Clément Renaud. Merci Eric Guichat. Merci Samuel Herr. Merci Leven Takar. Merci d'être venu et voilà, nous avons notre rentrée commence en septembre et vous pouvez nous retrouver donc à la rentrée. Merci.